deux films en ce moment à l'affiche portent l'empreinte de Mathieu Amalric. Le film musical des frères Larrieux, un bijou de poésie moderne, délicieusement barré, tralala, et Serre-moi fort, onirique et bouleversant, que Mathieu Amalric a réalisé, un film qui n'est pas autobiographique, et pourtant, on va en parler tout à l'heure. Mais d'abord, Mathieu Amalric. On a forcément une enfance singulière quand on vit de l'âge de 5 à 8 ans à Washington, puis de l'âge de 8 à 12 ans à Moscou, c'est-à-dire chez les Américains sous Nixon, puis directement en Union soviétique sous Brejnev. Alors tout ça était dû aux affectations de votre père qui était correspondant au journal Le Monde, c'est ça?
Et de mon père et de ma mère.
Et de votre maman qui travaillait aussi au Monde.
Absolument.
Critique littéraire.
Critique littéraire. Et ben voilà, ça paraît normal quand on est enfant d'être trimballé. C'est vrai qu'on est un peu arraché à des amitiés naissantes qui se brisent comme ça d'un coup. On recommence à zéro.
Ouais.
C'est vrai. Mais bon.
Mais parce
c'est
que quand
beaucoup
même...
plus tard que je me suis rendu compte que c'était particulier.
Ben oui, parce que la première moitié de votre enfance fut américaine. Partir ensuite en Union soviétique sous Brejnev, voilà, c'est changer de planète. Mais d'abord, les souvenirs que vous gardez de la ville de Washington et de la société américaine sous Nixon, même s'il y a 8 ans, les souvenirs ils sont parfois un petit peu anecdotiques, mais qu'est-ce que vous avez gardé de cette enfance américaine?
Ouais, c'est juste après Nixon, c'est Gerald Ford et tout ça, Carter, c'est 70 à 73. Et ben, c'est la musique qu'écoutait ma mère, surtout. Janis Joplin, Léon Russell, Joe Cocker, tout ça, Bob Dylan, le théâtre de Bread and Puppet, les hippies dans la rue, ville à Washington très verte.
Ouais.
C'est une ville...
Avec des avenues gigantesques,
oui.
Si larges. Elle a été faite d'ailleurs par l'architecte qui a dessiné les plans de Versailles à Washington. Oui. C'est pour ça qu'on retrouve des artères absolument gigantesques. Et le ciel, en fait, a une place folle, contrairement à New York, qui est une ville verticale.
Voilà, New York,
et dans l'ombre.
J'y suis allé qu'une fois dans l'enfance. Mais voilà. Et puis, c'est naturel. Voilà. Et puis des grandes cuisines, d'apprendre l'anglais avec Sesame Street, au petit déjeuner, sur une toute petite télé le matin. Et ensuite d'aller directement à Moscou, il faisait froid, voilà, Moscou c'est froid, c'est le patinage artistique, c'est le poney, j'avais un poney qui s'appelait Soudba, ce qui veut dire destin, que j'aimais beaucoup, et c'est la musique. Et jeux d'échecs.
Les jeux d'échecs, et puis le tempérament slave.
Mais
je voudrais savoir, avant d'atterrir à Moscou, vous avez été contrarié ou vous étiez curieux de savoir ce qui vous attendait quand votre père vous a annoncé que, allez, toute la famille partait pour l'Union soviétique?
Non. Je me souviens de... C'était des longs voyages en voiture break, en Volvo break, parce qu'on y allait en voiture, donc on traversait tous les pays de l'Est.
Non.
Si, j'ai ma mère, c'est ma mère qui initiait tous ces voyages extraordinaires où on s'arrêtait d'abord à Bruxelles.
Vous n'étiez pas arrivé par avion?
Non.
Vous aviez traversé tout.
On passait par la France.
D'accord.
Et il y avait les vacances dans le sud-ouest, à Montauban, d'où vient mon père.
Alors, fallait vite faire le plein de soleil pour ensuite
les cousins, les cousines,
partir en Russie.
L'enfance, et puis après, la Volvo remplie à bloc et moi dans le coffre à l'arrière, mon papa il m'a réinstallé un endroit derrière les valises où j'étais allongé et mon frère et ma sœur sur la banquette arrière. Et puis c'était parti, on s'arrêtait à Bruxelles pour voir une exposition de peinture parce que c'était ma mère. Puis on continuait, on allait à Amsterdam.
On est dans un film
après,
déjà.
Ça continuait jusqu'à Prague, Varsovie et on arrivait à Moscou.
Mais c'est la plus belle manière, en fait, de se poser dans la ville de Moscou que de traverser déjà...
Mais on faisait ça chaque année, quand
tous
on revenait pour les vacances d'été. Et la dernière année, ma mère avait fait quelque chose, on était passé par la Finlande. donc par Saint-Pétersbourg, ça s'appelait, oui. Enfin, ça s'appelait Leningrad à l'époque. Oui. Et on est monté jusqu'à l'arc polaire, tout là-haut, Hammerfest. Et puis le bateau à Tromsø, pendant un mois, un voyage comme ça. Enfant, ben, c'est la tension familiale, on va dire. C'est la découverte aussi de la musique par la radio.
Ouais, ouais.
Et donc, Brel, Barbara, Mouloudji, Yves Montand, Brassens, c'était tout ça qu'écoutait mon père.
Ouais, ouais. Et, l'exigence des textes.
Ouais. Et c'est beaucoup, beaucoup plus tard que tu te rends compte que de ce que tu te as remercié à tes parents.
Oui, parce que tout ça a infusé, bien évidemment.
La curiosité, voilà. Certainement, le fait que je peux vivre n'importe où, que tout m'intéresse, qu'il n'y a pas de frontières. Parce que le cinéma, c'est un lieu où, en fait, il n'y a pas de frontières.
Bien sûr, bien sûr.
Et les festivals sont faits pour ça. Ouais.
Alors, moi, je rêve en vous écoutant là, mais en même temps, la Russie. Alors voilà, Moscou, c'était tout ça, c'était les jeux d'échecs, c'était ce tempérament slave, c'était une certaine musique, c'était le patinage artistique, mais c'était aussi une certaine pénurie, c'était une certaine liberté entravée. Et puis surtout, il a fallu apprendre à parler russe.
Ah oui, mais ça, enfant,
c'est facile.
Ça vient tout seul, et puis ma mère m'avait inscrit, moi, au conservatoire de quartier russe de musique pour enfants. Et donc, j'étais le seul étranger. À l'époque, si vous voulez, et tout était fait pour que les étrangers et les Russes ne se voient surtout pas. Il y avait ce qu'on appelait le ghetto, où tous les étrangers étaient parqués avec des flics à l'entrée pour pas qu'il n'y ait de communication, le moins possible. Moi, j'étais à l'école américaine. En fait, et je prenais des cours de CNTE par correspondance de l'école française le soir.
Mais alors, en vous entendant dire tout ça, je me demande si votre père venant directement de Washington, il n'a jamais été dans le collimateur du KGB.
Ah, mais là, ça, il avait une secrétaire qui était choisie par le
KGB.
Bien sûr, elle travaillait pour le KGB. Ça nous arrivait, quand on claquait trop vite, trop fort une porte, de voir tout d'un coup un micro sortir du mur, bien sûr. Après, si vous voulez, ma mère...
Donc le bureau des légendes,
père,
dont vous avez été l'un des personnages les plus inquiétants.
J'ai vécu ça.
Vous avez revécu
totalement.
Sur le plateau d'Éric Rochant ce que
Russe,
vous aviez vécu enfant.
Absolument. C'était très émouvant pour moi, ça. Et mais mes parents avaient... Je me rends compte, beaucoup plus tard, je me suis rendu compte de leur curiosité. Eux essayaient, du coup, de ne rencontrer que des dissidents. Ils n'avaient pas le droit, mais c'est comme ça qu'ils sont devenus très proches de Otario Celiani, cinéaste géorgien, de Vladimir Vysotsky, ce chanteur qui a épousé Marina Vladi, qui n'avait pas le droit de chanter en public. C'était des concerts organisés au tout dernier moment. Tous les écrivains qui écrivaient par samizdat, c'est-à-dire les choses sous le manteau. C'était ça qui a attiré mes parents. Donc, je les ai rencontrés, ces gens-là, enfants. C'est Lily Brick, l'amour de Mayakovsky, je veux dire, je l'ai connu, quoi, c'est complètement... Mais ça paraît normal quand on est enfant.
Bien sûr.
Antoine Vitez qui vient à Moscou pour un spectacle, et j'allais au Bolchoï, ma mère m'emmenait écouter Rostropovitch, Oistra, Richter, bon ben voilà, qu'est-ce que vous voulez. Mais c'était quelque chose, si vous voulez, c'est pas des intellos, je sais pas comment vous dire, c'est une respiration.
C'est la gourmandise du savoir, curiosité sur le monde. Mmh. Alors, Mathieu Amalric, on a parlé tout à l'heure de ce cinéaste géorgien qui était considéré comme une sorte de Jacques Tati slave, d'ailleurs, Otar Yoselani, connu dans le monde entier, éprimé à la Mostra de Venise et au Festival de Berlin. On peut dire qu'il a fait entrer le cinéma dans votre vie, parce que un jour, il paraît qu'il vous a réquisitionné sur un tournage.
Absolument. C'est quelqu'un qui filme jamais d'acteur. Il prend des silhouettes des gens qu'il aime. Et il me connaissait
depuis que j'ai enfant. Il n'y a pas de professionnel, en fait, sur ces plateaux. Très peu.
Comme acteur, non.
Voilà.
Et voilà. Et ça aurait pu être mon frère. Ça a été moi. Et c'est complètement fou, hein. Et c'est là, c'est Les Favoris de la Lune.
Ouais,
ce
ça.
Film, je me souviens, j'avais 17 ans, je crois. Ouais.
Donc,
et ça a changé tout.
J'ai essayé. Vous avez découvert soudain la vie d'un plateau,
ouais,
avec tous ces artisans.
C'est ça.
Voilà. Les Favoris de la Lune, alors ça a été primé à Venise.
Ah, oui.
Vous avez vu toute la fabrication du film, qui est devenu un film culte.
Ah oui, et c'est de voir en effet tous ces artisans, tous ces métiers qui font un plan. Je trouvais ça sublime. J'avais l'impression d'avoir trouvé ma place.
Donc en fait, vous avez
le plateau.
Découvert, grâce à ce cinéaste russe, vous avez découvert qu'avec le cinéma, bah, on pouvait réinventer la vie.
On pouvait être et musicien, et peintre, et amoureux, et... on pouvait se servir de tous les nerfs qu'on n'utilise pas dans sa vie. Enfin, voilà, c'était un lieu de oh, et ça l'est toujours, hein. C'est même un lieu en expansion pour moi. Ça continue. C'est sans
fin. Et tant mieux pour nous, spectateurs.